RFI 5h à Paris, il est 13h à Séoul. Une nouvelle demi-heure d'information avec vous, Pierre Boudiaz. Bonjour Pierre.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous. L'ex-président sud-coréen échappe de peu à l'arrestation. Les enquêteurs empêchés d'entrer dans la résidence de Yoon Suk-yeol hier. Le chef d'État déchu accusé de rébellion, toujours protégé par les services de sécurité présidentielle. La suspension de la chaîne Al Jazeera dans les territoires palestiniens continue de faire réagir. Décision de Ramallah en plein combat contre des factions palestiniennes en Cisjordanie occupée. Une volonté de contrôler l'information, nous dira un journaliste palestinien engagé sur place. L'Éthiopie veut continuer à s'impliquer dans la lutte antiterroriste en Somalie. Addis Abeba demande à participer à la nouvelle mission de l'Union africaine dans le pays, une demande que Mogadiscio assure examiner. Et puis ils sont peut-être les grands perdants de la fin de la période des fêtes. Les sapins dépossédés de leur guirlande quittent les foyers français pour éviter le grand gaspillage. Ces compagnons de Noël sont ensuite revalorisés. Reportage en fin de journal. C'est donc un face-à-face sous tension qui a eu lieu hier à Séoul. Pendant plus de 6 heures, les enquêteurs sud-coréens venus perquisitionner la résidence de l'ex-président Yoon Suk-yeol se sont heurtés au service de sécurité présidentielle. Ils ont fini par faire demi-tour, évoquant des inquiétudes sur la sécurité du personnel sur place. Sous le coup d'un mandat d'arrêt et toujours poursuivi pour rébellion, l'ex-chef d'État sud-coréen reste en effet protégé par cette garde rapprochée composée de policiers, de militaires et d'agents des services de renseignement. Garde prétorienne qui lui est restée fidèle, Carlota Morteo.
Le service de sécurité présidentielle était jusqu'à il y a peu dirigé par Kim Yong-hyun, un ami d'enfance du président déchu, devenu ensuite son ministre de la Défense et qui est actuellement en prison pour son rôle d'instigateur dans le fiasco qu'a été la promulgation de la loi martiale début décembre. Créée en 1963, la garde rapprochée du président était au sommet de son pouvoir sous les différents régimes militaires, notamment celui de Park Chung-hee. Elle a perdu quelques prérogatives au cours du processus de démocratisation, même si aujourd'hui, la loi sur la sécurité présidentielle lui accorde toujours des pouvoirs considérables. Selon un journal coréen, une autre unité composée de militaires était également en première ligne pour repousser les enquêteurs, le commandement de la défense de la capitale, qui a habituellement pour mission de protéger Séoul d'une incursion nord-coréenne, aurait été chargé par l'ex-ministre de la Défense, toujours lui, avant qu'il ne soit emprisonné, de surveiller le périmètre de la résidence présidentielle, écartant ainsi la police qui joue traditionnellement cette fonction. La police qui, dans cette affaire, a pris le parti des enquêteurs et de la justice.
Alors que les avocats du président déchu dénoncent toujours un mandat d'arrêt illégal, deux hauts responsables militaires ont également été inculpés pour rébellion hier. L'un d'entre eux avait notamment été brièvement nommé commandant de la loi martiale déclarée unilatéralement par Yoon Suk-yeol. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine est attendu à Séoul lundi, peut-être l'ultime tournée d'Anthony Blinken. Elle le mènera également au Japon et en France. Aux États-Unis, le nouveau président de la Chambre des représentants promet des coupes drastiques dans le budget et la taille de l'État. Soutenu par Donald Trump, Mike Johnson a surmonté hier les divisions de son propre camp pour être élu à la tête de la Chambre basse du Parlement américain. La victoire du bon sens, de la force et du leadership salue le président élu. Donald Trump qui dénonce dans le même temps une attaque politique illégitime et une mascarade. Réaction cette nuit à l'annonce du tribunal de Manhattan dans l'affaire qui l'oppose à l'ancienne actrice X Stormy Daniels. Le juge annonce que le futur président, déjà reconnu coupable, connaîtra sa peine le 10 janvier prochain, soit 10 jours avant son investiture. Juan Merchan précise cependant ne pas être enclin à imposer une peine d'incarcération. Au Proche-Orient, des missiles, un drone tiré par les Houthis vers Israël et intercepté par l'armée de l'État hébreu. Un scénario qui se répète depuis l'attaque du 7 octobre et la guerre à Gaza. Les Houthis, dernier membre de l'axe de la résistance, a frappé directement Israël et qui disent agir en solidarité avec le peuple palestinien, subissent en retour des frappes d'Israël et de ses alliés. Franck Mermière est anthropologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Yémen. Il détaille les raisons qui poussent les Houthis et leurs alliés iraniens à poursuivre ces frappes.
Pour l'Iran, d'une certaine façon, il est important de manifester une solidarité vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, leur allié aussi, finalement, traduit cela en action, en acte militaire, alors que l'Iran, pour l'instant, ne peut rien faire du fait que les mesures de rétorsion que l'Iran pourrait subir de la part d'Israël seraient énormes, et notamment pourraient viser leur potentiel nucléaire. Donc, d'une certaine façon, les Houthis sont... le bras armé de l'Iran, mais il faut bien aussi prendre en considération le fait que des motivations internes liées justement à la légitimité de leur pouvoir au Yémen guident également la continuité de leur frappe contre Israël.
Franck Mermière, il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Yémen. Un raid israélien dans le camp de réfugiés de Naplouse fait au moins 7 blessés, dont 2 graves. Bilan présenté par le Croissant-Rouge palestinien, alors que l'agence de presse palestinienne assure que des snipers sont positionnés sur les toits de cette ville de Cisjordanie occupée. Joint par l'AFP, l'armée israélienne assure enquêter sur les faits, une opération que ne couvre pas Al Jazeera, suspendue depuis mercredi dernier dans les territoires palestiniens. Une tentative de masquer la réalité, selon la chaîne Qatari, là où l'autorité palestinienne l'accuse d'inciter à la sédition, alors que les forces de sécurité de Ramallah sont impliquées dans des affrontements à Jénine et dans le nord de la Cisjordanie avec des factions armées palestiniennes. Le journaliste Ahmed Rajabi, engagé sur place, évoque une procédure pour masquer les faits.
J'ai été surpris par cette décision du côté palestinien, d'autant plus que le bureau d'Al Jazeera avait déjà été fermé par les autorités israéliennes. Je n'ai pas vu de raison particulière qui pourrait justifier une telle action. Cette décision rend plus difficile le travail des journalistes pour raconter la vérité, et cela contribue aussi à augmenter les attaques contre les reporters d'Al Jazeera, des attaques à la fois verbales et physiques. On dirait que les autorités palestiniennes veulent contrôler l'information, limiter la liberté des journalistes. Personnellement, cela m'a rendu plus prudent parce que je pourrais être victime d'harcèlement comme mes collègues. Récemment, l'autorité palestinienne est très sensible à toute couverture de ces opérations de sécurité dans le camp de réfugiés de Jenin et n'accepte aucun reportage qui ne s'aligne pas sur la politique qu'elle pratique dans le camp.
Des propos recueillis par Nicolas Roca. En visite en Syrie, les chefs des diplomaties françaises et allemandes plaident pour une transition pacifique et inclusive. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont rencontré hier le nouveau dirigeant du pays, Ahmad al-Shara, qui se faisait anciennement appeler Al-Jolani. Sur X, le ministre des Affaires étrangères français assure avoir obtenu l'assurance d'une large participation de tous et notamment des femmes à l'avenir du pays. A noter que son homologue syrien, Assad al-Jibani, se rendra lui en visite au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie pour poursuivre les prises de contact avec les pays de la région, et ce, dès la semaine prochaine. L'Éthiopie poursuit son rapprochement avec la Somalie. Addis Abeba a indiqué hier vouloir collaborer avec la nouvelle force de l'Union africaine dans le pays. Elle combat les terroristes Shebab. Des déclarations faites au lendemain de la visite jeudi à Mogadiscio d'une délégation conduite par la ministre éthiopienne de la Défense. Les détails avec Amélie Tulé.
L'Éthiopie parle donc de son souhait de participer à l'AUSSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine, qui doit remplacer ce mois de janvier l'ATMIS, la mission africaine de transition en Somalie. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères déclare que l'Éthiopie et la Somalie ont convenu de collaborer sur ce sujet et de renforcer leurs relations bilatérales. De son côté, le ministère somalien des Affaires étrangères qualifie les discussions de haut niveau qui viennent d'avoir lieu d'étapes importantes vers la consolidation et la promotion de la stabilité régionale, mais aussi la réaffirmation du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Il faut encore attendre pour connaître les effets concrets de ces déclarations. Elles interviennent après une année 2024 marquée par de fortes tensions entre les deux voisins, avec notamment un accord maritime conclu entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland, puis la menace faite par Mogadiscio d'obliger les troupes éthiopiennes à se retirer du territoire somalien. Mogadiscio dit donc vouloir à présent examiner la proposition de Addis Abeba de fournir des troupes à la nouvelle force pour continuer la lutte contre les insurgés Shebab, actifs depuis plus de 15 ans et en guerre contre le gouvernement fédéral somalien.
Amélie Tulet, RFI, il est 4h09 en temps universel, 23h09 à Port-au-Prince. Le contingent étranger en Haïti continue de se renforcer, toujours confronté à la violence des gangs. L'île a déjà des soldats kényans être déployés sur son sol. Ce sont cette fois des militaires guatémaltais et salvadoriens qui sont arrivés en renfort à Port-au-Prince. Précision de Peterson Luxama.
Pour faire revenir la paix dans la capitale haïtienne, l'aide internationale arrive au compte-gouttes. Ce vendredi, 75 soldats guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens ont foulé le sol haïtien pour rejoindre les 400 policiers kényans déjà présents en Haïti. Lionel Lazare est le porte-parole adjoint de la police.
Ils sont arrivés dans le cadre des promesses faites pour assister et appuyer la police nationale d'Haïti dans la grande bataille qu'elle mène contre les gangs armés en Haïti.
De hautes personnalités, dont le patron du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, le chef du gouvernement, le chef de la police et l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, sont venus en personne accueillir ces nouveaux soldats à l'aéroport international Toussaint Louverture. En ce qui concerne les 8 militaires salvadoriens, ils ont été déployés pour préparer l'arrivée imminente d'un contingent plus important de troupes salvadoriennes. L'arrivée de ce contingent est un bon signe, selon Lionel Lazare.
La police nationale.
La PNH et les policiers kényans poursuivent la bataille. Ces nouveaux effectifs fraîchement arrivés représentent une hausse significative par rapport à ceux qui étaient en place auparavant.
Une nouvelle étape dans cette collaboration internationale, mais le chemin est encore semé d'embûches pour retrouver un semblant de stabilité dans la vie quotidienne des Haïtiens. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
L'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia en visite en Argentine, exilé en Espagne suite à la victoire contestée de Nicolas Maduro en 2020. Il doit rencontrer le président argentin Javier Milei, mini-tournée latino-américaine qui le conduira ensuite en Uruguay, les deux États qui ne reconnaissent pas la légitimité de Nicolas Maduro. Une tournée qui intervient alors que les autorités vénézuélennes offrent une récompense de 100 000 dollars pour toute information permettant de le capturer. En France, à peine installé, déjà reparti, les sapins de Noël devenus inutiles après la période des fêtes. Les Parisiens sont invités à déposer les leurs dans l'un des 180 points de collecte de la capitale et ce jusqu'au 20 janvier. Marie Leveugle est allée voir comment ils étaient ensuite revalorisés. Reportage.
Dans ce jardin public parisien, une forte odeur de sève flotte dans l'air. Un point de collecte de sapins a été aménagé entre l'aire de jeu et la cabane des jardiniers. Juliette apporte le sien.
Je pense que c'est important que les sapins soient revalorisés. Et en achetant mon sapin, au début, j'avais hésité entre un synthétique ou un naturel, sachant que les naturels ont une empreinte carbone moindre que les synthétiques. Et donc, du coup, pour aller jusqu'au bout de cette idée, il vaut mieux venir les déposer dans un endroit qui va bien après, quoi.
Seule consigne, les sapins doivent être déposés sans sac et sans décoration. Jérôme est jardinier à la ville de Paris. Ce matin, il a broyé plus de 200 arbres avec son équipe.
Ça, c'est du sapin broyé. Et du coup, une fois broyé, après, on met ça dans les massifs, dans la terre de bruyère, qui va servir de paillage. Ça fait esthétique aussi. Et puis, ça évite la repousse des mauvaises herbes. Puis après, ça va se décomposer tout seul, quoi.
L'an dernier, la ville de Paris a récupéré plus de 110 000 sapins et a produit 2500 m3 de copeaux de bois, l'équivalent d'une piscine olympique. Ailleurs en France, d'autres usages ont été imaginés. Dans le sud-ouest, les branches sont réutilisées pour consolider les dunes et ralentir l'érosion des côtes.
Marie Leveugle, et je profite des quelques secondes qu'il nous reste pour vous signaler cet article déjà disponible sur le site de RFI. La rédaction web fait le tour des 40 dates anniversaires qui vont marquer cette année 2025. Bombardement atomique de Nagasaki et Hiroshima, libération de Nelson Mandela ou décès de Jean-Paul II. Une grande frise à retrouver donc sur www.rfi.fr. Il est 4h13 en temps universel.
Pierre Boudias.
Et à suivre jusqu'à 5h TU, quel risque pour les employés expatriés? Situation sécuritaire dégradée dans le monde, hausse des catastrophes naturelles et hausse des cyberattaques également. Les salariés en poste à l'étranger de plus en plus en danger. Conclusion d'un rapport d'International SOS à retrouver dans Vivre ailleurs. Mais d'abord, dans un instant, le grand invité de la rédaction est une figure bien connue de Madagascar, le père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire Akamasoa sur la Grande Île. Le père Pedro, prélat argentin qui a fait sa vie à Madagascar, où il est engagé depuis un demi-siècle auprès des plus démunis. Alors pourquoi cet engagement si loin de chez lui? Comment lui et ses équipes ont-ils sorti de terre, dispensaire et école? Et quel avenir pour la Grande Île? Il a répondu aux questions d'Arnaud Pontus.
Bonjour père Pedro.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI, merci d'être là ce matin. Dans quelques mois, ça fera 50 ans que vous vivez en permanence à Madagascar. Comment vous, le prêtre argentin, vous êtes-vous retrouvé curé d'une paroisse sur la Grande-Île en 1975?
Ben, je fais partie de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, qui était un pionnier de la dignité des pauvres ici en France au XVIIe siècle. Et c'est Saint-Vincent de Paul qui a commencé, qui a envoyé les premiers missionnaires à l'île de Madagascar en 1648, à Fort Dauphin. Alors, notre supérieur général, en 1968, il a fait une lettre en disant « On a besoin de missionnaires pour Madagascar ». J'ai lu cette lettre-là, j'étais en Argentine. Eh bien, j'ai dit ben, « J'y vais ».
Et vous êtes resté depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui vous a fait rester? Vous auriez pu repartir, Père Pedro.
Oui, mais ce qui m'a fait rester, c'est ce peuple tellement accueillant. La joie de vivre qui a le peuple malaga, c'est vraiment contagiant. J'ai dit, quand je serai prêtre, je vais revenir pour servir ce peuple-là.
Et vous revenez donc prêtre, et puis quelques années plus tard, 1989, c'est une année capitale pour vous. Vous découvrez sur les hauteurs de la capitale, Antananarive, une décharge à ciel ouvert. Et là, c'est une décharge où vivent des familles. C'est un choc, là.
Oui, là j'ai subi un électrochoc. Là j'ai vu des centaines, voire un millier d'enfants qui se disputaient les ordures avec des animaux qui étaient là. Je suis resté choqué, électrochoc. Je pouvais plus parler. Ce soir-là, je pouvais pas dormir. Et vers minuit, je me mets à genoux sur mon lit, j'ai levé la main, j'ai dit « Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants ». Et le lendemain, je suis allé à la décharge. Et ils m'ont dit « Toi les Blancs, toi les Vazas, les l'étranger, qu'est-ce que tu veux ? Parlez avec vous ». Et alors voilà. Et on a que j'ai dit « Si vous aimez vos enfants, je suis prêtre. Si vous aimez vos enfants, je suis prêt à vous donner un coup de main ». Et ces décharges-là, aujourd'hui, nous l'avons changé en oasis d'espérance. Mais je ne pensais pas à l'époque que ça va durer si longtemps.
Que ça durerait aussi longtemps, voilà. Parce que vous découvrez donc les plus pauvres des pauvres, on peut le dire comme ça, et vous fondez Akamasu, qui signifie en malgache « les bons amis ».
Les bons amis, l'ami fiable. Et bien, je me suis entouré déjà de tous ces jeunes que je connaissais dans le sud-est, qui étaient étudiants à l'université à Antananarive. J'ai dit, vous avez, je les ai convoqués, j'ai dit, vous étiez autrefois, vous avez des belles idées, comment il faut s'engager, être responsable de son pays, comment il faut secourir les compatriotes. J'ai dit, voilà, il y a la décharge, voulez-vous me suivre? Ils m'ont dit, mon père, on y va.
Et vous avez construit, avec ces équipes, avec ces bonnes volontés, des écoles, des lieux de travail, des dispensaires.
Il fallait faire tout. On a commencé par les dispensaires. Les dispensaires parce que les gens étaient très malades, très malades. Alors, soigner les gens d'abord. Ensuite, les enfants avaient faim. Alors, on a commencé à donner un goûter aux enfants. Un goûter, ensuite, on a commencé à chanter. À Madagascar, on chante. Et quand c'est un peuple qui chante. Et quand on chante, Il y a l'espoir. Et ensuite, on a commencé l'école. Et bon, nous avons commencé une école sous un arbre, assis par terre. Aujourd'hui, que je vous parle maintenant, il y a 20 843 élèves à Kamasu, dès la crèche maternelle, l'école primaire, le collège, lycée et même une université. Même, je n'ai jamais pensé qu'à partir d'une décharge, on aurait un jour créé une université.
En octobre dernier, vous avez célébré les 35 ans de ce mouvement. Est-ce que vous savez combien de personnes vous avez aidées depuis tout ce temps?
C'est certainement plus de 500 000, voire 1 million de personnes qui ont passé en 35 ans à Kamasu. Et bien, 40 000 sont restées avec nous. 40 000 personnes. Mais Lou, là, je n'ai jamais imaginé que ça va devenir une ville. Sinon, j'aurais pris... À l'époque, j'aurais pris le premier avion, je m'échappe.
Ah bon, vous seriez parti?
Ah, je serais parti, j'ai dit, avec quel argent on va aider tout ce peuple-là? Et voilà que Dieu vous donne la force de chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. L'Afrique et Madagascar a une jeunesse extraordinaire. C'est le réservoir de l'humanité. Parce que, surtout Madagascar, c'est un des pays le plus jeune du monde.
Et le plus pauvre aussi. 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec à peu près 2 dollars par jour.
Oui, ben, quelquefois un peu moins. Mais on peut pas vivre avec 2 dollars par jour à Madagascar ni en Afrique, on peut pas. Mais quel courage, quelle persévérance, quelle passion, quel amour qu'ils ont pour leurs enfants, pour qu'ils travaillent dans ces conditions-là. Moi, j'ai travaillé avec eux. Je ne suis patron de personne, je suis le premier ouvrier d'Akamassou.
Mais lutter contre la pauvreté, Père Pedro, c'est un combat sans fin.
Sans fin. Et bon,
mais où trouvez-vous cette l'énergie?
Mais je suis venu à Madagascar à cause d'un homme, d'un homme qui m'a séduit quand j'étais jeune, qui était vrai, qui a donné sa vie pour ses amis et qui a aimé les pauvres, et qui s'appelle Jésus. C'est Jésus, un grand révolutionnaire pour moi. Mais on a tellement édulcoré dans l'histoire que Jésus est devenu tellement doux. Jésus était un homme qui était engagé aux pauvres, qui disait à tous les gens de son temps, quand il est, même aux prêtres du temple, hypocrite, pourquoi vous faites souffrir le peuple et vous vivez comme des rois? Alors, voilà, ces hommes-là, c'est lui qui me donne la force.
Père Pedro, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025?
Mais que puisse la pauvreté puisse diminuer à Madagascar, en Afrique surtout, que la paix puisse s'installer dans le monde, que la guerre en Ukraine finisse, que la guerre en Israël, à Gaza, au Liban, et aussi au Soudan, il y a dans les Kivu, en Congo. Pourquoi la guerre? Si nous sommes vraiment des hommes du troisième millénaire, tous les élus, tous les présidents des nations, les Nations Unies devraient travailler pour la paix et réduire les inégalités. Il y a 1 milliard de personnes qui ont faim. Manger à Madagascar, en Afrique, c'est un événement. Pourtant, il y a de la nourriture. La nourriture existe, mais il faut la partager. On ne peut pas spéculer sur les prix de la nourriture. La nourriture devrait être gratuite pour les enfants, comme l'éducation, comme la santé, comme boire de l'eau propre, comme avoir un logement digne. C'est un droit, ce n'est jamais un privilège. Voilà.
On entend encore beaucoup de révolte dans votre voix.
Mais bien sûr, je suis en colère. Pourquoi ceux qui sont les élus sont si lents? Pourquoi cette lenteur pour lutter contre la pauvreté? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi tant de procédures? Qu'est-ce que c'est plus important? Faire une école, un hôpital, une maternité ou la procédure? C'est faire l'école. Et bon, et on vous met, combien de fois ils m'ont promis des aides qui m'ont fait attendre 1 an, 2 ans? Eh bien, je dis, c'est fini. Je ne vais plus demander à aucune grande fondation, institution de l'argent. Je vais chez les gens simples qui ont du cœur et qui réagissent tout de suite. Et quand je viens en France, en Europe, je ne rentre jamais les mains vides. Si Dieu existe, il y a une place pour chaque pauvre de la terre.
Merci Père Pedro d'être venu ce matin.
Merci à vous et à tous les auditeurs des RFI.
À bientôt.
Merci.
Le Père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire Akamassou, au micro d'Arnaud Pontus. Un entretien retrouvé en intégralité sur RFI Pure Radio. Accent d'ailleurs maintenant sur RFI, vivre et travailler à l'étranger. Un rêve pour certains qui peut comporter des risques, les expatriés et les dangers auxquels ils sont confrontés en 2025 au cœur d'un rapport de l'international SOS qui vient de sortir. Spécialiste mondial des services de gestion de risques de santé et de sécurité, ce groupe met en lumière dans cette étude les inquiétudes grandissantes des entreprises pour leurs salariés en poste à l'étranger. Christophe Subtil est le directeur général chargé de la stratégie chez International SOS. Il est interrogé par Corinne Manjou pour Vivre ailleurs.
Notre métier est de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs à l'international. Et donc tous les ans, en fin d'année, on produit une carte et un rapport sur la situation de l'année suivante. Le premier de ces produits, c'est une carte des risques qui se décline elle-même en 4 couches. Une couche propre à la sécurité, une couche propre à la santé, une couche propre à la santé mentale et, c'est très récent, mais pour la 2e année, une couche propre aux conséquences du changement climatique sur la santé et la sécurité des collaborateurs.
Et quelles projections faites-vous pour 2025?
Sur le plan de la sécurité, les risques sont évalués autour de la violence politique, des troubles sociaux, de la criminalité, nuancés par la robustesse des infrastructures et des forces locales. Et les grandes évolutions de cette année, c'est un accroissement du niveau de risque autour de la frontière entre l'Israël et le Liban sur une profondeur de 50 km, au Soudan, à Johannesburg, au Myanmar, mais également en Nouvelle-Calédonie. Dans tous les pays que je viens d'évoquer, le niveau des risques a été haussé pour 2025 par rapport à 2024. En revanche, la région autour de Bujumbura, elle, a fait l'objet d'un déclassement de risque du niveau élevé au niveau modéré. Ça, c'est sur le plan de la sécurité.
Quelles sont les grandes tendances de cette enquête proprement dite pour 2025?
Alors, cette enquête est un document sur la base d'un sondage auprès de décideurs dans le monde qui identifie donc les risques principaux perçus par ces décideurs au sein des entreprises. Et la France ne se distingue pas énormément des grandes tendances mondiales. Le chiffre bouge un petit peu, mais le classement est le même. Et les trois risques principaux en termes de sécurité, c'est le risque cyber, à égalité pratiquement avec le risque géopolitique. Le risque géopolitique, c'était déjà le cas l'année dernière, ça se confirme cette année, reste vraiment en tête des préoccupations des décideurs des entreprises. Et le troisième, c'est l'impact de la hausse du coût de la vie, avec tous les effets induits que ça peut comporter. Sur le plan de la sécurité, ce sont les trois principaux risques.
Pour ce qui est de la santé, quel est le rôle du stress lié au bouleversement dans le monde pour les salariés, dans les entreprises à l'étranger ?
Il est très fort. Il est en tête des risques santé perçus auprès des entreprises d'une façon générale. Les risques autour de la santé mentale et du bien-être restent la principale préoccupation dans ce domaine-là. Quelque chose qui est intéressant, c'est ce que l'enquête identifie autour de l'anxiété. 45% des sondés estiment qu'ils seront perturbés par une anxiété basée sur la désinformation, des informations des fois erronées qui peuvent circuler en particulier sur les réseaux sociaux et qui entraînent chez les collaborateurs une véritable anxiété qui peut aller jusqu'à des problèmes de santé mentale importantes comme le burn-out.
Pour faire face à tous ces problèmes que vous avez identifiés, quelles sont les solutions que vous proposez ?
Les solutions sont organisées autour de trois grands thèmes. Le premier, c'est le thème de l'information. La première chose à faire pour les entreprises au bénéfice de leurs salariés, c'est de disposer, tant dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de la santé, d'une information fiable, vérifiée et accompagnée de conseils. Le deuxième grand thème, c'est une capacité d'assistance sur le terrain. L'entreprise doit être en mesure, par elle-même ou par un prestataire tiers, de porter assistance, voire secours sur le terrain à ses employés. Et puis, le troisième grand thème, c'est pour une entreprise de s'équiper d'une capacité de gestion de crise. Il est important d'avoir une organisation, des moyens pour gérer une crise, quelle que soit d'ailleurs la nature de la crise, peu importe, mais il faut que l'entreprise s'organise pour être en mesure de gérer une crise.
Vivre ailleurs avec Corinne Manjou, c'était Christophe Subtil qui était aujourd'hui le directeur général chargé de la stratégie chez International SOS. Il était l'invité ce matin. Et on termine en musique, vendredi sur mer et le titre Hard jusqu'à 5h30, heure de Paris.
Mais c'est normal, j'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal, j'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. They don't feel it.
a minute that we breathe light. Some space that we do right. I don't know what this has become.
Vendredi sur mer, le titre Hard. Restez avec nous, il est bientôt 4h30 en temps universel. Dans un instant, le retour de l'actualité africaine sur RFI.